Le soleil est sorti, il nous tend les bras avec un grand sourire malgré quelques gouttes de pluie. En nous envoyant ses rayons lumineux ce jeudi 13 février 2014. À la Sainte Béatrice, merci de passer une fois encore cette petite part d'un jeudi après-midi en notre compagnie sur 92.2. Nous ferons aujourd'hui un hommage à un mythe de la guitare flamenca, auteur entre autres de l'album Toro Magia. En 1988, pour ne citer qu'un de ces moments de gloire, qui a souvent été comparé à Paco de Lucía, aujourd'hui sur Canal Flamenco, hommage spécial à Manolo Sanlúcar. Nous avons aujourd'hui aussi la chance de recevoir sur le plateau de Canal Sud l'artiste qui est sans doute un des mieux placés pour nous évoquer Manolo Sanlúcar. Et à cela pour plusieurs raisons. Il a côtoyé dans le passé, il est lui aussi guitariste flamenquiste et avec quel talent. Dire qu'il est un des tout premiers représentants de la guitare flamenca en France n'est point une flatterie mais un constat. Le public s'est bousculé aujourd'hui pour venir l'écouter sur 92.2. Bonjour à toutes et à tous, nous recevons aujourd'hui Antonio Kiko Ruiz. Thank you. Cavalgando por Bulerías, tiré de l'album Cuerda y Madera d'Antonio Kiko Ruiz, qui est aujourd'hui en notre compagnie sur le plateau Canal Sud. Bienvenue à toi, Kiko.
Muy buenos días.
Nous sommes ravis de t'accueillir une seconde fois sur ce plateau de Canal Flamenco. La première fois avait lieu en novembre 2012. Nous sommes ravis parce qu'il nous tarde de connaître tes projets actuels. De reparler flamenco avec toi, mais également, bien sûr, comme les auditeurs et les auditrices le savent, parce qu'aujourd'hui c'est une émission spéciale sur Manolo Sanlúcar, et tu connais peut-être mieux que personne cette personnalité.
Oh, j'ai eu la chance de le rencontrer, donc je connais, on va dire, certains points de lui, de sa personnalité en tant que guitariste et que maître, puisque j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir étudier avec lui. Maintenant, je ne le connais pas plus que ça non plus. Hein.
D'accord. Ce que je te propose, Kiko, c'est de commencer cette émission par Manolo Sanlúcar. Ça nous conduira avec quelques illustrations musicales environ à mi-programme, en comptant bien sûr l'agenda qui va durer 4 ou 5 minutes, comme nous en avons l'habitude, hein, l'agenda régional. Et cela nous permettra en même temps de parler peut-être indirectement de tes débuts dans le flamenco.
Avec plaisir.
Et en deuxième partie, donc, on parlera plus amplement justement de tes productions actuelles, de tes collaborations musicales. Alors, ce que je te propose, c'est que nous allons écouter un premier titre de Manolo Sanlúcar, nous en reparlerons par la suite. Ça s'appelle Puerto Lucero, et je précise que vous pouvez appeler Antonio Kiko Ruiz à l'antenne si vous avez des questions à lui poser. Je pense qu'il est d'accord.
Complètement, voilà, avec plaisir.
Voilà, c'est au 05 61 53 36 95, 05 61 53 36 95, nous serons ensemble jusqu'à 15h, vous pouvez appeler sur l'antenne si possible pendant les pauses musicales pour poser une question à Kiko. Nous allons donc commencer cet hommage à Manolo Sanlúcar par ce titre Puerto Lucero sur 92.2. Thank you. Alma Nolosan Lokar dans Puerto Lucero. En fait, Puerto Lucero, c'est le surnom de la ville natale en Andalousie de Manolo Sanlúcar, Sanlúcar de Barrameda. Kiko, oui. Comment as-tu connu Manolo Sanlúcar?
Manolo, je l'ai connu lors d'un stage en 82. Donc, ça fait déjà un petit moment. Un stage qui a duré un mois, à raison de 4 heures par jour, de 10h à 14h. Et évidemment, j'ai découvert Manolo Sanlúcar comme aficionado, et enfin moi en tant qu'aficionado Manolo Sanlúcar à travers ses disques et sa musique, évidemment avant. Mais là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer donc personnellement et de pouvoir mamar, comme on dit un petit peu, voilà, pour profiter un petit peu de sa connaissance, de son savoir. Et
Alors, on ne va pas rentrer dans une biographie de Manolo Sanlúcar, ce n'est pas le but, mm-hmm. mais première remarque par rapport, par exemple, au titre qui était un peu long, hein, pour commencer cette émission, Puerto Lucero, c'est un petit peu long, mm-hmm. mais c'était mm-hmm. magnifique. Justement, c'est oui. la première chose qui frappe dans le toque pour la guitare de Manolo Sanlúcar, je crois, Kiko, que tu seras d'accord, c'est le toque limpio, c'est-à-dire la précision et oui. surtout la propreté de ce qu'il joue. C'est oui. très très limpide comme oui. jeu.
C'est un guitariste qui a eu un grand souci du son, en fait. Je dirais qu'il y a une démarche même carrément classique dans l'approche qu'il a avec l'instrument et la musique. C'est un guitariste qui vient d'une dynastie, parce que son père lui-même était guitariste, son frère...
Isidro Muñoz. Hein.
Isidro Muñoz, tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui est né quoi, dans une guitare. Et c'est vrai, personnellement, c'est pas le morceau que tu as mis que... C'est pas le genre de thème, de composition que j'aime le plus de Manolo Sanlúcar. Parce qu'il a eu toute une époque, en fait, où il a orchestré beaucoup la guitare, etc. C'était un peu à la mode, et je crois que c'est aussi une démarche des maisons de disques à l'époque qui certainement le poussait à faire ce genre de choses. D'ailleurs, il en est revenu un petit peu par la suite, et il s'est rattrapé avec un disque qui est Tauromachia.
À ce titre, juste peut-être avant d'y aller...
Il réconcilié avec pas mal de gens, justement, à ce propos.
Parce que... C'est d'écouter justement un titre de Tauromachia, ça s'appelle Maitilias et Portangos. Et ce que je te propose, d'écouter ce titre pendant 3-4 minutes, on reprend la conversation juste après.
Ça marche.
Donc c'est Manolo Sanlúcar sur Canal Sud. Toro Magia de Manolo Sanlúcar. Vous êtes sur Canal Sud dans notre émission Canal Flamenco. Si vous prenez l'émission en cours, nous sommes sur le plateau en compagnie d'Antonio Kiko Ruiz. Donc Kiko, tu nous disais que cet album Toro Magia avait marqué quelque chose d'important dans la carrière de Manolo Sanlúcar.
Oui, c'est un retour de Manolo Sanlúcar dans une production vraiment où on sent que c'est lui, évidemment beaucoup aussi la collaboration de son frère Isidro, avec il y a beaucoup d'autres musiciens qui jouent dans cet album, et on sent vraiment son expression avec toute la liberté qu'il a eue pour le faire, quoi.
Oui, il y a Isidro en deuxième guitare d'ailleurs.
En deuxième guitare, mais aussi dans les arrangements et dans la réalisation de cet album. Isidro, c'est un super guitariste aussi, vraiment. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il a toujours été la seconde guitare de Manolo Sanlúcar. Mais franchement, je le connais aussi très bien. J'ai passé presque plus de temps avec Isidro qu'avec Manolo. Et Isidro, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la volonté d'exister en tant que soliste. Il en avait complètement les moyens. Il n'a pas eu envie d'exister en tant que soliste, mais il a fait énormément pour le flamenco. Il a réalisé, il a écrit beaucoup déjà pour beaucoup d'artistes, beaucoup de choses, des textes, mais des musiques. Et puis il a formé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et de guitaristes notamment.
Je crois qu'on en avait parlé déjà dans une interview avec Juan Carmona.
Complètement. Il a collaboré avec Juan Carmona, il a aidé à réaliser un album, je ne me rappelle plus lequel c'était. Mais il a fait des albums pour tout le monde. D'ailleurs, il y a plein de gens qui nous a fait découvrir, comme Remedios Amaya, par exemple, ou Vicente Amigo, par exemple, aussi, qui a vécu chez les Sanlúcar.
Il y a El Niño de Pura, me semble aussi.
Aussi. Mais d'ailleurs, je crois que de toute la, on va dire, toute la génération après Paco de Lucía, sont tous passés par les mains de Manolo Sanlúcar et de Isidro. Directement ou indirectement.
Alors justement, Kiko, qu'est-ce qui différencie Manolo Sanlúcar qu'est-ce qui fait que c'est un être à part dans la guitare flamenca? Parce que quand on écoute bien sûr les deux premiers morceaux, on s'aperçoit presque qu'il y a quasiment, on peut le comparer à Paco de Lucía dans la virtuosité, dans, dans le côté très propre du son.
Moi je pense que Manolo Sanlúcar, en fait, s'il n'y avait pas eu Paco de Lucía, ça aurait été le guitariste phare, non, de la guitare flamenca. Il s'avère qu'il a toujours été dans l'ombre de Paco de Lucía, parce que Paco de Lucía, c'est carrément un génie. Et cet homme-là, d'ailleurs, il n'a pas... Paco de Lucía, contrairement à Manolo Sanlúcar, n'a pas donné de son temps pour dans la pédagogie, enfin, je veux dire, pour transmettre directement avec des élèves, faire avec des stages, etc. Quoi.
Oui, d'ailleurs, Paco de Lucía, je crois qu'il fait 300 concerts par an. Il est toujours dans les avions, dans les hôtels.
Il n'arrête pas, c'est un homme qui n'a jamais arrêté. C'est un homme très généreux. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Ce n'est pas du tout une histoire d'égoïsme ni quoi que ce soit.
Bien sûr.
C'est simplement une histoire de carrière. Voilà, il y a des parcours comme ça, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut.
En fait, il est prisonnier de sa qualité.
Oui. Oui, oui, de son génie, et donc il a une demande énorme de gens du spectacle, de public, etc., qui fait que... Voilà. Lui, il aime ça aussi, ça n'est pas caché.
Il arrive de temps en temps à aller à la pêche, quand même, dans le golfe du
maintenant,
Mexique.
Maintenant, il paraît qu'il a envie de commencer à vivre. C'est bien.
Alors, justement, Manolo Sanlúcar, évidemment, c'est donc sur le plan technique, donc il est au summum.
Oui, oui, c'est quelqu'un qui est vraiment au top de la guitare dans son temps, et il en a beaucoup souffert d'ailleurs d'être justement toujours dans l'ombre de Paco de Lucía.
Et justement, ça anticipe un peu une question que j'avais préparée, que par avance, il semble qu'en fait en France, bon, à part les mordus du flamenco, bien sûr, des vrais aficionados qui connaissent Manolo Sanlúcar, mais il semble qu'il est moins médiatisé que les autres. Il semblerait qu'on le connaît un peu moins.
Oui, mais parce que justement, il fait partie d'une ancienne génération. C'est pas la génération de Tomatito, de Riqueni ou de... Ni même l'autre juste après, qui est la mienne, avec Vicente Amigo,
Canizares
et tout ça. Il fait vraiment partie de la génération de Paco de Lucía, de Niño Miguel, dont on parlait tout à l'heure, etc. De Serranito el Monje,
Enrico de Melchior aussi.
Oui, mais qui a pas fait une carrière soliste, qui s'est plus dédié à accompagner le chant, mais qui entre autres, oui, a fait quand même des albums de soliste. Et c'est vrai que inévitablement, Paco de Lucía a quand même écrasé tout le monde,
oui.
Sans le faire exprès. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des quand on est dans un champ de fleurs et que tout d'un coup il y en a une qui est plus grande et plus belle que les autres, ben forcément on regarde que celle-là.
Oui, ça me fait penser un peu au tennis quand j'entends des commentaires de bon, j'en ai marre de voir Nadal en finale de Roland Garros. Hein. C'est un peu pareil. Hein.
Oui. Mais bon, il faut pas. Moi, j'aime pas raisonner en tant que en disant voilà, lui c'est le meilleur et basta, j'en ai assez.
Ça
m'intéresse pas du tout.
Tout à fait.
Ça serait dommage de se limiter à ça parce que chaque individu est un monde avec ses richesses, avec son histoire et c'est vraiment bien de pouvoir s'équilibrer en écoutant et en consommant. En s'arrêtant sur chaque chose, quoi.
Alors, juste avant d'écouter un deuxième titre de Toro Maria, justement, mm-hmm. Kiko, question plus personnelle, mm-hmm. quel lien tu perçois entre le flamenco et la tauromachie? Ça pourrait être presque le thème d'une émission presque entière.
Moi, je suis pas très très bien placé pour te parler de ça. Oui, en tant que flamenco, mais dans la tauromachie, moi, je suis pas. J'ai été malheureusement éloigné de ça parce que moi, je suis né à Toulouse. J'étais aux arènes à l'époque où il y avait des corridas avec mes parents. J'ai des photos. Mes parents étaient aficionados à la tauromachie, mais moi, j'y connais pas grand-chose en fait.
D'accord.
Donc, j'ai du mal à parler de quelque chose que je connais pas bien. Je respecte, j'en ai entendu parler pas mal de fois de gens, des passionnés. Et forcément, j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe au-delà de ce qu'on voit visuellement, qui peut paraître un peu barbare comme ça, mais il y a beaucoup, ça va au-delà de tout ça quand même, quoi. Donc, je regarde ça avec respect. Et j'y réfléchis, je sais pas, peut-être un jour j'aurai une opinion. C'est pas pour me débiner, mais je préfère, voilà, moi, ma vie, c'est le flamenco aussi. Je peux dire que c'est des hommes, en tout cas, passionnés, dans un sens comme dans l'autre. C'est aussi une culture, c'est des racines. C'est pas quelque chose qui s'est inventé comme ça, juste en disant, ouais, c'est un phénomène de mode.
Tout à fait.
Non, ça revient de, ça, c'est quelque chose qui revient de très loin, que ce soit la musique ou la corrida. C'est du spectacle, c'est sûr. Ça n'a pas été fait dans le sens du spectacle. Ça a été récupéré dans le sens du spectacle. Mais ce n'est pas fait pour... Le flamenco, ça n'a pas été fait pour que ce soit vu, écouté, que ce soit fait sur scène, en fait.
C'est très récent, en fait. Oui. Ça a été fait dans les tablaos, dans les cafés cantantes au début du XXe siècle.
Exactement. Maintenant, on s'y intéresse. Maintenant, on fait en sorte, les artistes ont fait en sorte que le flamenco se soit mis en lumière, soit mis en scène, qu'il y ait une histoire, qu'il y ait un programme, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Bon, parce que faut bien jouer le jeu, il faut rendre les choses, on va dire, naturelles.
Visuelles. Nous sommes dans un monde de l'image.
Et vivre dans son monde aussi, à son époque. Voilà, après je sais pas...
Donc juste encore une autre petite question avant d'écouter le deuxième titre de Toro Maria. Alors justement, tu as parlé de Manolo Sanlúcar en comparaison avec Paco, qui n'avait pas trop le temps de s'adonner à la pédagogie. Mm-hmm. Justement, lui, Manolo Sanlúcar, donc dans la, on en parlait un petit peu hors antenne, il n'était pas dans un genre de pédagogie de mimétisme et de transmission orale comme on a l'habitude de le voir, disons, chez les flamenquistes, hein, justement.
Complètement. Moi, quand j'ai fait ce stage, la première chose qu'il nous a dit, je ne vous apprendrai pas une seule falsetta. Si vous êtes venu chercher falsetta, vous pouvez quitter immédiatement le stage, je ne vous apprendrai pas une seule falsetta. Vous pouvez les apprendre sur les disques, éventuellement, ou sur des partitions, parce qu'il y a des gens qui éditent des partitions. Moi, j'ai envie de vous apprendre à comment est-ce qu'on tient une guitare flamenca, comment on la fait sonner, comment est-ce qu'on peut faire une falsetta. Comment est-ce que vous pourriez faire votre musique, votre flamenco? Et moi, j'étais à 10 000 lieues de ça, quoi, parce qu'à cette époque-là, moi, je jouais les falsettas de... Ces falsettas à lui, les falsettas de Manolo Sanlúcar, les falsettas de Paco, les falsettas des guitaristes qui me plaisaient. Aussi bien de Morao, de Parrilla, Félix Utreras, des uns et des autres. Donc j'avais un répertoire un peu, je piochais un peu à droite à gauche, de ce qui était dans mes possibilités aussi, évidemment, parce qu'il y avait des falsettes que je ne pouvais pas jouer. Parce que nous, on repiquait tout d'oreille. J'avais pas de technique, donc je repiquais tout d'oreille comme je pouvais, et donc évidemment je jouais les falsettas que je pouvais jouer.
Repiquer les falsettas Paco de Lucía à l'oreille, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident du tout, d'autant plus qu'on n'avait pas des logiciels comme aujourd'hui pour ralentir et tout ça, quoi. Donc moi j'ai des disques que, enfin je les ai plus parce qu'ils sont complètement rayés, ils sont complètement détruits à force de remettre l'aiguille en arrière, tu vois, de revenir et de revenir. Mais c'est vrai que c'est une bonne école.
Ça provoquait des tendinites des fois de mettre le saphir.
C'est vrai. Mais j'ai trouvé ça tellement bien, tellement beau. De suite, j'ai adhéré à cette démarche, non, qu'il nous a proposée. Et je l'ai écouté. Quand je l'ai rencontré, ça faisait déjà à peu près 8 ans de guitare que j'avais dans les doigts. Mais avec beaucoup de défauts, beaucoup de techniquement, en fait, c'était un peu à l'envers, quoi. Et quand il m'a vu, donc j'avais 16 ans, j'avais quand même pas mal d'énergie encore, j'arrivais à faire des choses parce qu'il y avait l'énergie et la volonté. Mais il me dit, là, tel que, voilà, là, tu vas droit au mur. Enfin, je veux dire, tu vas dans une impasse, parce que techniquement, c'est pas du tout correct, quoi. Et il me dit, ce qui serait bien, c'est qu'à partir de maintenant, tu recommences vraiment. Il me dit, c'est bien ce que tu fais, hein. Mais à partir de maintenant, il faut recommencer à zéro techniquement, quoi. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, oula, moi je pensais que j'étais bien, j'étais sur la bonne voie. Et en fait, pas du tout, quoi. En fait, pas du tout. Et j'ai bien fait, parce qu'en très peu de temps, bon, c'est vrai que pendant un an, c'était un chantier, je ne savais pas jouer. Mais en très très peu de temps, j'ai commencé à récolter les fruits de ce travail. Et à me rendre compte que la même chose que ce que je faisais avant, ça me coûtait deux ou trois fois moins d'énergie pour le faire. Et ça sortait plus propre, et c'était plus clair et plus évident, quoi.
Alors Kiko, nous allons écouter donc un deuxième titre de cet album Dono Maria de Manolo Sanlúcar. Et l'heure passe très très vite. Et juste après, il y aura un petit agenda très très court dans l'agenda régional. Encore, nous parlerons un petit peu de Manolo Sanlúcar. Et nous passerons donc à tes projets... que tu entraînes, donc tes collaborations musicales actuelles.
Merci.
Donc voilà, donc Toro Maria, donc ça s'appelle Oración de Manolo Sanlúcar sur 92.2. Et n'oubliez pas que vous pouvez appeler Kiko au 05 61 53 36 95.
Thank you.
Oración, un titre tiré de l'album Toro Maria.
Ça, c'est le Manolo Sanlúcar que j'aime.
Alors, justement, Manolo Sanlúcar, j'ai lu, en préparant cette émission, certaines de ses déclarations, justement, sur la manière de transmettre cet art du flamenco, mm-hmm. parce qu'on en a parlé juste avant, de manière très, très juste, d'ailleurs, qu'il n'était pas forcément dans une tradition orale mimétique. Mmh. Et j'ai vu certaines de ses déclarations où il trouve que dans les conservatoires en Andalousie surtout, la pédagogie est trop axée, tant que t'as donné une pédagogie un peu hybride, c'est-à-dire il reproche un peu à ses conservatoires d'enseigner trop de jazz, c'est-à-dire d'aller directement à la fusion flamenco jazz. Alors mmh. qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, je pense que la musique, elle doit être abordée personnellement. Chacun doit s'engager à faire la musique qui résonne en lui. Qu'elle soit plus traditionnelle, plus fusionnée, plus moderne, plus inventive, plus expérimentale. On peut faire ce qu'on veut, en fait. À condition que ce soit sincère et que ce soit surtout bien fait. Et qu'on s'applique à le faire bien. Après...
Et alors, il trouve que les jeunes guitaristes sont un peu paumés, en fait. Et je traduis oui. un peu, je peux traduire un peu de la manière dont il en parle.
Il n'y a pas que lui qui pense à ça, même pas. Moi, j'ai entendu des conversations comme ça, un peu privées, dans lesquelles Pac, il disait qu'il y avait des jeunes guitaristes aujourd'hui qui jouaient avec une technique monstrueuse, mais il se demandait où était le flamenco. Lui, quand même, qui a révolutionné le flamenco, qui a encore montré du doigt comme un guitariste qui n'est pas flamenco, mais qui est quand même un des fondateurs du flamenco qu'on joue aujourd'hui, même dans le chant, même dans la danse, qui a influencé tout le monde. Et donc lui, il disait à un moment donné, les gens jouent avec trop d'effets, avec trop de démonstrations, et alors que le flamenco, à la base, c'est bien s'il y en a des effets, c'est bien s'il y a des démonstrations, c'est bien s'il y a de la technique, s'il y a tout ça, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait, à la base, il faut qu'il y ait l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le son, cette tension qu'il y a dans le flamenco, non, qu'il y a c'est quelque chose de très simple en même temps. C'est très simple en même temps parce que c'est ce qui fait que c'est pas uniquement réservé aux professionnels et aux gens qui consacrent leur vie à ça. C'est aussi à la portée de gens qui bossent et qui arrivent de chez eux et qui, le soir, vont se retrouver faire du flamenco les week-ends. À d'autres moments, font du flamenco, ils font du beau flamenco aussi. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très simple, en fait.
Alors, pour les profanes, c'est sûr que, pour expliquer, Paco de Lucía, en fait, il a joué dans les années 80 avec Django McLaughlin et Aldi Meola. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait de la fusion jazz, c'est-à-dire qu'il a pris des harmonies jazz qu'il jugeait bonnes pour le flamenco, en fait.
Hein. Bien sûr, mais tout le monde fait ça, tous les musiciens, même dans le classique, même dans le jazz, tout le monde se sert de tout le monde. Paco de Lucía, il est allé s'enrichir, en fait, tout simplement. Il est allé s'enrichir dans le classique, déjà, avec Manuel de Falla, avec d'autres compositeurs. Il est allé s'enrichir dans le jazz, avec des gens qu'il a rencontrés sur sa route, comme Chico Rea, McLaughlin, etc. Mais aussi plein d'autres gens. Et effectivement, ça, c'est vachement positif, parce que ça alimente une culture qui est déjà très riche, et elle continue à être alimentée, et ça donne envie à plein de gens de continuer cette route, à plein de jeunes de transmettre le flambeau, et que voilà, que ça s'arrête jamais. Ça c'est magnifique, ça c'est super.
D'accord.
Quand même,
d'accord, c'est...
si ça permet ça, hein, si ça permet le fait qu'une chose elle meurt pas, c'est quand même formidable, quoi.
Oui, en fait, peut-être il y a un peu de nostalgie. Peut-être quand Paco il parle comme ça, peut-être c'est peut-être une nostalgie du passé ou encore le flamenco restait.
Peut-être que c'est aussi c'est encore une fois personnel. C'est aussi chacun juge en fonction de ce qui lui plaît à lui.
Tout à fait.
Je crois que c'est comme une cuisine. Hein. À un moment donné, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous le même palais, et forcément. Après, il y a aussi une histoire de nutrition. Il n'y a pas qu'une histoire de goût, il y a aussi une histoire d'être nourri ou pas nourri. Voilà. Et dans la musique et dans l'art, il y a quand même ça aussi. C'est quand même aussi une nutrition, quoi. Donc, c'est là où chacun il doit savoir ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller, et savoir ce qu'il fait, quoi.
On va clôturer ce chapitre. Manolo Sanlúcar, c'est passé beaucoup trop vite, hein. Kiko, c'est déjà 14h45, il nous reste un gros quart d'heure, une vingtaine de minutes on va dire, on va dépasser un petit peu. Alors juste avant d'attaquer...
J'ai envie de dire quelque chose, c'est que Manolo Sanlúcar, il a donné quand même son dernier concert il n'y a pas longtemps en Espagne. C'est quelqu'un qui s'est retiré de la scène. C'est une information qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais moi, je l'ai vu, j'étais en tournée au Maroc et je l'ai vu sur une chaîne espagnole, sur la chaîne espagnole TVE International. Et ça m'a fait un choc quand même parce que je me suis dit, waouh, bon, c'est vrai qu'il est, plus tout jeune non plus et que pour monter sur scène avec un instrument comme ça, il faut quand même avoir, il faut de l'énergie, hein, il faut beaucoup d'énergie. Et c'est pas juste le moment de la scène, mais c'est la préparation, etc. Puis bon, il n'a rien à prouver de plus, quoi. Enfin, voilà, il y a de nouvelles générations qui arrivent, etc. Mais ça m'a fait quand même un choc, quoi.
Oui, parce qu'il est, il va rester. On va le dire carrément, ça, sûr, avec des termes très simples.
Oui, oui. C'est un personnage qui compte dans l'histoire des grands maîtres du flamenco, ça, c'est sûr. Hein.
Donc, nous allons attaquer l'agenda régional, Kiko, et on va écouter juste après l'agenda. Un de tes titres, voilà, de Compasseando, et nous rattaquerons dans cette conversation juste après. Donc on va attaquer l'agenda régional de Canal Flamenco dans l'immédiat. Avec notre ami Manitas à la guitare. Donc, justement... Quelqu'un, Kiko, que tu connais bien, Bernardo Sandoval, il sera à la Cave aux Poésies du 4 au 15 mars prochain. Il va jouer en trio avec Mengo Josserand au piano et Michel Poulet au violoncelle. Il va rester 12 jours à la Cave aux Poésies, c'est du 4 au 15 mars, notez bien. Bernardo Sandoval, la Cave aux Poésies, au 71 rue du Thor. Il y a un numéro de téléphone, si vous êtes intéressé, de réserver. Je crois qu'il vaut mieux réserver. C'est le 05 61 23 62 00 05 61 23 62 00, à la Cave aux Poésies Bernardo Sandoval du 4 au 15 mars. Le quartet Anzuelenka marche très très bien avec la sortie de son album Plaza Massena, et ce quartet Anzuelenka va dispenser des stages à Auch dans le Gers très prochainement. C'est dimanche prochain, le 16 février. C'est un stage de chant animé par Sylvia Morales, qui est la chanteuse du groupe Anzuelenka, le dimanche 16 février de 14h à 17h30. Ce sera la salle des Cordeliers à Auch, dans le centre d'Auch. Il y a un numéro de téléphone si vous êtes intéressé. C'est le 06 83 80 03 67 06 83 80 03 67. Un stage de chant avec Sylvia Morales. Nous avons Antonio Kikori sur le plateau. Nous avons parlé de Bernardo Sandoval. Alors, nous n'allons pas faire de jaloux. Nous allons parler de Sergio Lopez, qui va faire un stage masterclass très prochainement à la MJC de Castanet-Toulousain. Ça va se passer les 22 et 23 février prochains. Ça tombe samedi, dimanche, s'il me semble bien. Il y aura donc un concert au cinéma de la MJC de Castanet-Toulousain le dimanche à 16h. Et donc le 22 et 23 février, masterclass avec Sergio Lopez à la MJC de Castanet-Toulousain. Il y a un numéro de téléphone 05 61 81 83 56. 05 61 81 83 56. Serge Lopez, qui se produira également en Ariège à la médiathèque le 19 avril avec Jean-Luc Amestoy et Jackie Grandjean, le 19 avril à Saverdun, à la médiathèque Saverdun en Ariège. Et nous allons terminer cet agenda avec les biennales ibériques de la ville de Colomiers, les 10e, c'est le 10e anniversaire. Les biennales qui auront lieu du 21 au 23 mars prochain, vraiment un plateau de choix. Alors nous allons commencer par, bien sûr, le vendredi soir au Hall des Communs, il y aura une revue flamenca avec 9 grands artistes réunis sur scène pour une représentation unique et exceptionnelle. Notez bien, dans le désordre, Joaquín Grillo, Diego Amador Trio, Rafael Carrasco, Bel Maya, entre autres. Ce sera au Hall des Comminges le 21 mars à 21h. Le samedi, il y aura le trio Lopez, Kiko Ruiz, Bernardo Sandoval à Colomiers le 22 à 18h au Hall des Comminges. Ce sera la Bodega Trio de Guitare. Et un peu plus tard, Miguel Poveda en personne à 21h au Hall des Comminges. Tout ça le 22 mars. Et le dimanche, la Fiesta de la Buleria, c'est le bouquet final avec 13 artistes sur scène. Il y aura, alors dans le désordre encore, hein, Diego Carrasco, Juana La Del Pipa, Tomás La Macanita, Jesús Méndez, Concha Vargas, Curro Vargas, Carmen Larga, José Valencia, tout ça à Colomiers, du 21 au 23 mars. Alors pressez-vous pour prendre les places. Il y a un numéro de téléphone, notez bien, c'est le numéro de Colomiers Infoculture. 05 61 15 23 82 05 61 15 23 82 les 10e biennales ibériques de Colomiers. Alors nous allons passer à la partie bien sûr Kiko Ruiz de notre invité. Juste avant d'écouter un morceau, Kiko, est-ce que tu peux nous parler donc de tes projets actuels? Alors en premier, pourquoi ne pas commencer par justement
le trio? Écoute, c'est un trio qui est vraiment super parce que on s'entend très bien, on s'amuse vraiment bien tous les trois et ça se passe bien avec le public, donc c'est une belle histoire. Et là on a donc effectivement, tu as annoncé un concert à Colomiers et à cette occasion on va enregistrer un live. Voilà, on va enregistrer un album pour marquer, laisser une trace, voilà, de cette rencontre et de cette amitié surtout, quoi.
Alors c'est quasiment une exclusivité pour Canal Flamenco.
Ouais.
Quasiment.
Ouais.
Merci de l'annoncer.
Et voilà, sinon d'autres projets, j'ai plein de projets. Je continue toujours avec Renaud Garcia Fons. Là j'ai un nouveau projet en trio avec Jackie Grandjean et Jean-Denis Rivalo à la batterie. C'est un projet un peu plus électroacoustique, pour lequel on va faire quelques notes sur le festival de 31 notes d'été, cet été. J'ai le projet de... Je vais accompagner Duquende au festival de Toulouse Espagnol cet été aussi.
Duquende, avec qui tu as des liens de parenté, hein?
Oui, Duquende, c'est un cousin et surtout un grand ami, quoi. Et voilà, donc on va certainement continuer à jouer... Ce récital de Cante sur d'autres festivals.
Avec Duquende, ce sera, ouais, où exactement?
C'est sur les berges de la Garonne, Toulouse et l'Espagnol. C'est le 28 juin.
D'accord.
Voilà, je crois qu'il y aura aussi Manuela Carrasco.
D'accord.
Cette soirée. Voilà, j'ai aussi un duo avec José Sanchez, qui est un super guitariste de Toulouse, que beaucoup de gens connaissent déjà. Et on va monter donc un répertoire à deux guitares. Ça, c'est quelque chose qui me faisait aussi envie depuis longtemps. Voilà, sinon après il y a des projets de musique, des pièces de théâtre, de films aussi.
Donc il n'y a pas uniquement le Kiko Ruiz qu'on connaît de concertiste, ça commence à devenir vraiment...
Ouais, disons que tous les projets, ce sont des projets qui m'intéressent et que je trouvais intéressants. Ah oui, il y a un autre projet aussi avec Elisa Martin Pradal. Donc avec la danse contemporaine, donc je fais une création musicale avec Laurent Guiton au tuba. Et là, c'est une association un petit peu insolite et très intéressante. Donc guitare flamenca et tuba. Et ça, c'est pareil. Il y aura une date. Je me rappelle plus la date, mais vous pouvez voir sur mon site kikoruiz.com ou .fr. Et ça sera à Muret cet été.
Il y a aussi une intervention au Zénith de Toulouse au mois de mars. Hein.
Si exactement, c'est en collaboration avec les Chevaliers du Fiel, avec qui on a des liens d'amitié depuis un moment déjà, puisque j'ai fait leur première partie plusieurs fois. Et c'est des gens que j'aime beaucoup, et donc ils m'ont proposé de jouer dans cette soirée. C'est une soirée du rire, où il va y avoir plein de comiques invités. Et là, je serai avec le trio, avec Jackie Grandjean et Jean-Denis Rivalo à la batterie.
D'accord. Voilà. Ce sera juste avant les biennales, en fait, de Colomiers. Hein. Voilà. C'était le 17 mars. Alors, Kiko, ce que je te propose, c'est d'écouter un titre, d'ailleurs, d'une maquette que tu m'as amenée,
oui.
Canalizando. Voilà. C'est une...
C'est une guajira.
Une guajira.
Canalizado.
Hein. Ouais. Canalizado, pardon. C'est une guajira donc, de ton spectacle Compaseando.
Tout à fait.
Voilà, donc nous allons l'écouter sur Canal Sud, Canal Flamenco, Kiko Ruiz, donc dans ce titre, c'est une guajira. Merci. C'était Antonio Kiko Ruiz dans un titre qui s'appelle Canalizado. C'était une guajira. Nous allons malheureusement conclure cette émission. Ils sont un peu dissipés aujourd'hui sur le plateau. Je ne sais pas s'ils sont en train de faire des photos parce qu'il y a du public aujourd'hui. C'est sur le plateau de Canada. On remercie le public qui est venu même de loin, certains, hein, des Pyrénées-Atlantiques. Hein. Des Landes. Des Landes, pardon. Je vois des basques partout, en fait. Voilà, Kiko. C'était donc Canalizado, une guajira, donc de ton spectacle actuel, Compaseando. Merci. Malheureusement, l'heure passe trop vite, Kiko. Merci d'être venu.
J'ai passé un bon moment, donc j'espère que les auditeurs aussi. Et puis, voilà, merci à toi, surtout. Et ton émission et ton affection pour le flamenco.
C'est naturel. Voilà, Kiko. Merci encore et nous ne manquerons pas de dire à l'antenne tes spectacles prochains. Donc on le répète encore, hein. Okay. Le 17 mars, notez bien, le 17 mars au Zénith de Toulouse, en collaboration avec les Chevaliers du Fiel, et surtout le 22 mars au Hall des Comminges avec Sandoval, Bernardo Sandoval et Sergio Lopez. Merci Kiko Ruiz, et nous allons laisser la place à l'émission suivante, et en attendant bien sûr notre générique.